écoutez Prolongation. Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour à l'émission Prolongation en ce samedi 17 octobre. Danny, j'espère que tu es prêt parce que tu vas encore faire face à quelques tirs de barrage en fin d'émission. J'ai réservé quelques bons lancers. Tu as besoin d'attacher tes jambières encore une fois pour notre dernier bloc de l'émission qui se poursuit pour la deuxième heure.
Il a fallu au départ les dépoussiérer.
Oui, probablement beaucoup de poussière. Tu les avais donné à une cage au sport qui ensuite les ont rendus parce qu'il y avait plus grand-chose à faire avec ça. Alors, c'est à bien sûr, dans notre émission, le propriétaire des Golden Knights de Las Vegas, Danny, a échappé un morceau et tu en avais parlé lors des dernières séries. Je présume que tu avais des informations sur cette fameuse division entièrement canadienne, c'est-à-dire regrouper les 7 clubs canadiens d'un côté, les faire jouer l'un contre l'autre et de regrouper les 24 autres équipes américaines de leur côté de la frontière. C'est une idée qui commence à faire du chemin et quand ça sort de la bouche du propriétaire de Vegas qui dit « ben on jouera pas la saison prochaine contre les équipes canadiennes », ça fait un peu que la mèche a été un peu vendue. On va explorer tout ça avec notre ami Ray Lalonde qui se joint à nous à ce moment-ci. Ray, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Ray, quand t'as entendu ce que M. Foley a dit dans cette fameuse entrevue radio, ça s'est passé mercredi dernier, j'imagine que t'as pas été surpris là, dans le contexte de réunir les clubs canadiens de leur côté de la franchise puis les autres équipes américaines de leur côté. Du côté pandémie, ça fait un peu du sens.
Ouais, disons que les choses qui se discutent à l'intérieur de la Ligue nationale avec les gouverneurs puis les commissaires, tout à fait normal que des propriétaires d'équipes qui ont un haut niveau de confiance, de relation avec Gary Bettman, utilisent leur voix, leur microphone pour communiquer, surtout dans des marchés non traditionnels où c'est important de garder les gens engagés.
Ouais.
Et c'est le cas à Vegas. Une équipe qui connaît beaucoup de succès, mais ça demeure quand même un nouveau marché de hockey relativement jeune. Et M. Foley a un rôle important. C'est un gars influent dans la Ligue nationale de hockey. Puis les Golden Knights sont un excellent exemple de succès et de réussite sur le plan business, marketing, commercial. Alors, lui, je pense que dans son aspiration de pouvoir être transparent, authentique, avec les gens dans la communauté là-bas,
dans
a simplement
marché, là, ouais.
dit ce que tout le monde pense à voix haute depuis longtemps. C'est-à-dire que il va falloir qu'on trouve des solutions nouvelles qui n'avaient pas été explorées dans le passé, mais qui sont le résultat des contraintes de la pandémie et de trouver une façon d'exister quand même. Alors,
ben
une
oui.
division canadienne évite les frontières. Et on revoit ça dans quelques mois après le début de la saison. Ça me semble être la voie du succès.
Est-ce que c'est la voie du succès à prime abord quand on regarde ça froidement, mais est-ce que financièrement, Ray, évidemment, il y aura des pertes parce qu'on ne sait pas combien de spectateurs qui vont assister live, passez-moi l'expression, à ces événements-là. Alors, il y aura des impacts négatifs sur le plan financier, mais est-ce qu'un modèle comme ça peut assurer des revenus qui vont permettre au moins à la Ligue nationale de dire ben l'exercice peut être à toute fin pratique quasi rentable?
La réponse est oui, Martin. Dans le sens que, même s'il n'y avait pas de hockey l'an prochain, il y a assez d'argent dans la Ligue nationale de hockey, équipe par équipe, ou dans les coffres d'urgence de la Ligue pour survivre une année complète. Il y a assez d'argent. La preuve, en 2004,
alors, une année complète sans hockey, ils peuvent survivre.
Oui, absolument. C'est des équipes professionnelles. Il y en a certaines qui valent plus d'un milliard et demi de dollars canadiens. Alors, je veux pas minimiser le choc ou l'impact négatif, bien sûr. Et respectueusement, je pense aussi que les gens doivent savoir que c'est une entreprise très lucrative, une équipe de sport professionnel.
Oui.
Certaines plus que d'autres. C'est certain que les 5-6 équipes de tête qu'on connaît, là, de Chicago, New York, Los Angeles, Montréal, Toronto, sont ultra riches et peuvent absorber des chocs comme ça. Il y en a dans le fond du baril. Les Coyotes, les Panthers, par exemple, là, qui sont deux exemples.
Ben, ils ont besoin des sous des autres,
Ray. Pardon?
Ils ont besoin des sous des autres.
Absolument. Mais ils obtiennent les sous des autres depuis des années dans la péréquation. Ouais. Alors, c'est certain que c'est pas idéal, Martin et Danny, mais ce qui est important de souligner, c'est que C'est encore plus important, malgré le fait que je répète depuis des mois que les revenus billets au guichet dans la Ligue nationale de hockey sont beaucoup plus prioritaires que dans les autres ligues sportives. C'est demeure vrai. Une chose, c'est que les droits médias, télé, stream vidéo, radio et ainsi de suite, national et local, ça, c'est la clé du succès pour continuer. Et CNBC possède les droits pour l'an prochain de diffuser une saison, quelle qu'elle soit, je pense que c'est tout à fait correct pour survivre. Monsieur Foley voudrait avoir un minimum de 40%. Bien sûr, on veut tous des milliers de spectateurs, mais la pandémie ne nous permet pas de spéculer pour le moment de ce que seraient les chiffres.
Danny, moi, je suis convaincu que le feu va pogner au Canada avec une formule comme ça. Est-ce que tu penses que on va être capable de maintenir l'intérêt du côté américain, même si les clubs canadiens vont pas se promener de l'autre côté de la frontière?
Oui, ben effectivement, c'est sûr que il y a une grande rivalité, il y a quelque chose qui anime les équipes canadiennes. Si tu crées une division qui est purement canadienne, tu pour la rivalité, pour tout ce que ça représente. Écoute, le Canadien va à Vancouver, à Edmonton, à Toronto, c'est toujours la même chose. Calgary, déjà les joueurs du Canadien se sentent un peu chez eux parce qu'il y a quand même plusieurs chandails du Canadien qui sont là, très visibles dans les gradins, les gens qui manifestent. Mais effectivement, là, moi je pense que, et sur le plan marketing, j'aimerais entendre Ray là-dessus, je suis pas mal sûr que ce serait du bonbon organiser un calendrier pour ceux qui ont à mettre en place une stratégie de vente avec exclusivement les équipes canadiennes.
Ray, bien sûr, est-ce que les diffuseurs américains trouveraient leur compte sans les équipes canadiennes? Parce qu'on entend souvent parler que les équipes canadiennes, pour la télé américaine, c'est comme un accessoire. Il y a des accessoires dont ils peuvent se passer, puis il y a peut-être un ou deux accessoires qui trouvent le fun. Mais ça a toujours été club américain contre club américain qui les intéressait à prime abord.
Oui, tu as raison, Martin, mais tu sais, dans l'ensemble de l'œuvre, faut pas oublier que du côté de Rogers puis Sportsnet, eux aussi vont devoir défrayer les frais si les matchs ont lieu au Canada ou ailleurs. Donc, ces détenteurs de droits-là, côté US, côté Canada, sont engagés à aider la Ligue nationale de hockey à survivre puis à passer au travers de la pandémie. Et je répète encore une fois que l'entente de diffusion avec NBC reste une année avant de se terminer. Il y a de la négociation intense qui se déroule actuellement aussi. Et d'autres diffuseurs comme ESPN et Fox pensent peut-être que le hockey serait un autre morceau, une autre addition importante à leur programmation. Donc, il peut avoir de la concurrence, ce qui est bon pour le hockey et la Ligue nationale. Et peut-être qu'NBC va être tenté de payer davantage. Tout ça pour dire que ces centaines de millions de dollars-là, annuellement, sont importants pour la survie de la Ligue nationale de hockey. Bon, quand on regarde le Canada versus les États-Unis, les deux réseaux ont le droit d'accéder à des matchs dans un pays ou dans l'autre. De toute façon, c'est de la diffusion. Et si les Américains préfèrent des rivalités Penguins-Capitals, Flyers-Rangers, évidemment Blackhawks-Blues et ainsi de suite, bien sûr que oui. Mais on a déjà parlé, toi et moi, Martin, les Canadiens sont une équipe originale qui a 110 ans d'existence, 111 ans si on veut être précis. Il y a eu de grandes rivalités avec les Bruins, avec les Blackhawks, avec les Rangers. C'est une équipe qui attire les Américains quand même. Alors, il y a certaines équipes au Canada, je pense aux Leafs avec Austin Matthews, qui ont des propriétés et qui intéressent le spectateur commun américain. Mais l'importance pour NBC, c'est d'accéder au grand marché de population. New York, Los Angeles, Chicago, Boston, Philadelphie, Washington, et ainsi de suite.
Alors, c'est dans ces marchés-là que ça se joue, là.
Ben oui, parce que là, c'est des audiences, puis c'est de la programmation, c'est de l'exclusivité pour NBC. Ça fait en sorte que les gens vont se rallier derrière ça. Et en attendant de pouvoir assister en personne, c'est ça la contrainte qu'on a. Oui. C'est ça, survivre dans une pandémie. C'est de trouver des moyens d'opérer quand même ta business, de pas fermer les portes. Alors ça, c'est essentiel pour le hockey, malgré tous les obstacles auxquels ils vont faire face, comme c'est le cas avec la NFL, il faut que tu trouves une façon, même si ça veut dire que des équipes jouent moins de matchs. Tu sais, le calendrier de baseball majeur s'est terminé il y a deux semaines avant les séries, puis il y a deux équipes qui se sont pas rendues à 60 matchs. Alors, c'est ironique, les Tigers de Détroit, les Cards de Saint-Louis, parce qu'en cours de route, ils ont échappé des matchs ici et là, la pandémie, des tests
perdu
positifs.
Des joueurs.
Ben à la fin, ça a fonctionné quand même. Personne va revenir là-dessus parce que c'est une année exceptionnelle.
En même temps, Ray, je veux pas trop m'étaler dans les autres sports, mais il y a une réalité. Tu parlais d'une ouverture pour Fox, pour ESPN. Est-ce que justement le fait qu'il y a jusqu'à maintenant un intérêt très mitigé, du moins il y a pas trop de passion pour les séries de baseball. Attendons voir la série mondiale. NASCAR a essuyé des baisses assez importantes au niveau de ses heures d'écoute de télévision au cours de cette saison-ci qui s'est déroulée à huis clos. Le hockey peut se mettre le pied dans la porte là, dans ce contexte-là.
Oui, puis c'est une bonne observation parce que il n'y a jamais un meilleur moment de négocier une nouvelle entente que lorsque les parties sont plus flexibles, plus libérales. Pense juste à la convention collective dans la Ligue nationale de hockey qui s'est signée.
Ils ont réussi à faire ça en une semaine.
Ben oui, apparemment, Martin, que c'était possible. Ouais. Apparemment, ça ne donnait pas grand-chose de jouer trop dur. Pourquoi? Pour le bien collectif. Alors, peut-être que la Ligue nationale, c'est certain qu'NBC va avoir le droit de premier refus, mais si la Ligue nationale décide d'imiter un peu le football de la NFL, puis d'avoir un match le jeudi, puis d'avoir un match le dimanche après-midi, puis le dimanche soir et le lundi soir, alors, soudainement, tu pourrais parceler ton offre à différents réseaux et élargir les rendez-vous nationaux. Et c'est ça qui fait que ça crée une enchère et que ça crée de la valeur. Et tu peux être sûr que les propriétaires, dont M. Foley, adorent l'idée d'être à ESPN. Parce que quand
tu
es à ESPN, Martin,
et tu vas chercher beaucoup de foyers. Oui.
Et là, quand tu es à Sports Center, là, tout le monde écoute. Tout le monde regarde parce que tu as tes faits saillants qui sont disponibles dans les nouvelles quotidiennes aux États-Unis. C'est ça la beauté d'ESPN.
Est-ce que, Ray, la valeur du produit actuellement, dans les circonstances, est toujours aussi élevée ou on n'a pas une intention du côté des médias de regarder ou des diffuseurs, d'augmenter l'offre avec un produit qui coûte peut-être un peu moins cher?
Ben, la réponse à cette question-là, Danny, c'est que depuis le temps que je suis imprégné là-dedans, là, ça fait 35 ans, là, j'ai jamais vu de droits médias diminuer. Honnêtement, là, ça c'est quelque chose comme la valeur d'une franchise.
Ouais.
Ça
n'arrête pas de monter. Malgré la situation, c'est
incroyable.
C'est
une inflation perpétuelle.
Ouais, c'est incroyable.
Ils vont payer plus cher parce qu'ils vont se dire, ben là, dans un an, cette pandémie-là, peut-être qu'on va avoir maîtrisé ça, puis là, on va-tu être content d'avoir les droits? Fait que on rentre tout de suite dans l'équation, on paye ce que M. Bettman va avoir, et puis soudainement, on vient d'acquérir une propriété de plus. Alors, ou ben non, NBC va dire, non, on va doubler la mise, du 200 millions, on va aller à 400 annuellement, parce que nous, Gary, on n'en veut pas de compétiteurs là-dedans. On veut le hockey à nous seuls.
Ça aussi.
As-tu le sentiment, Ray, par rapport à ça, parce que à un moment donné, il y a une limite à la capacité de payer des entreprises de communication. Puis là, c'est une réalité peut-être un peu plus canadienne qu'américaine. On voit difficilement Rogers bonifier une offre que celle qu'ils ont déposée sur la table il y a quelques années maintenant. On sait, nous trois, là, on sait que c'est bien difficile de rentabiliser ça en vendant des minutes publicitaire, là, ce sont des choses qui sont passablement connues au moment où on se parle. Est-ce qu'en ce sens-là, quand viendra l'ouverture, tu vois plus un bouquet de gens de communication, d'entreprises de communication, venir peut-être pas s'unifier, mais venir essayer de travailler ensemble pour trouver leur compte sans que les dépenses dépassent l'entendement?
Ben, t'as raison sur le point que on a toujours un peu de difficulté à justifier. Parce que si tu regardes les cotes d'écoute, les séries éliminatoires cette année étaient en baisse de 45% versus l'an dernier. Et la série finale, Tampa Dallas, moins 61% versus Saint-Louis-Boston l'an dernier. Alors, OK, il y a plusieurs facteurs, on comprend.
Ouais.
Dont la congestion, dont les heures de match, dont le volume, dont les marchés et dont la pandémie. Parfait, OK. Mais il y a une chose qui est claire, Martin, c'est que de plus en plus, lorsqu'on achète des droits, on achète l'ensemble de l'œuvre, y compris les médias numériques, qui prennent de plus en plus forme et qui sont de plus
en plus clairs. Ce que le baseball a vendu à coups de milliards, Ray.
Tout à fait, exactement. Donc, c'est là qu'on va rechercher un peu ce qui n'existe plus autant à la télé, c'est-à-dire l'acharnement des gens de regarder la télé. Ben, on est disponible sur les autres plateformes. On trouve d'autres moyens. En anglais, on appelle ça « Total Audience Delivery ». TAD. Puis c'est quand on calcule les audiences qu'on ne calcule plus juste la télé. On regarde l'ensemble de l'œuvre sur toutes les plateformes numériques qui existent dans la famille d'un réseau comme NBC Sports. Alors, c'est là que tu trouves le moyen de le rentabiliser parce que tu as besoin de programmation pour ces plateformes-là aussi.
Ça, c'est sûr.
Et donc, tu les acquiers en poursuivant l'extension d'entente avec les ligues et les équipes. Et de cette façon-là, tu réussis à justifier ta dépense. Mais je regarde aussi concrètement, tu sais ce que RDS paye, c'est cher là pour les matchs des Canadiens.
Absolument, pour les droits locaux.
À l'échelle locale.
Oui, oui.
Bon, alors si tu fais ce calcul-là, malgré le fait que les audiences baissent ici et là, ça donne quand même à RDS du contenu pour remplir toutes sortes de programmation secondaire.
Absolument, absolument.
C'est là qu'on trouve la valeur.
Ray, le temps file un petit peu, mais il y a un dernier point que je vais aborder avec toi parce que au cours de la dernière semaine avec Paul Arcan à Montréal au 98.5, tu as parlé beaucoup du travail des agents. Et le dernier point que on voulait aborder avec toi concerne le dossier Philippe Danault. Et c'est un autre dossier épineux à régler chez le Canadien maintenant que les nouvelles acquisitions sont passées et qu'on a réglé le gros dossier étant celui de Gallagher. Est-ce qu'un joueur québécois peut être encore vendu dans une négociation pour le Canadien de Montréal? Est-ce qu'on est capable de chiffrer, d'établir la valeur d'un gars qui est bon sur la glace, mais qui part en plus est un Québécois?
Ben, dans le contexte actuel, ça serait une grave erreur des Canadiens de laisser filer Philippe Danault. Pour toutes les raisons que vous avez mentionnées, que tout le monde souligne par rapport à ses contributions sur la glace, par rapport à son rôle, par rapport à tout ce qui est établi comme étant un joueur sur lequel on peut s'appuyer et avoir confiance, il n'y a rien comme un joueur prévisible. Parce qu'un joueur prévisible, ça donne l'occasion à un entraîneur de savoir qu'il peut toujours compter sur lui. Mm-hmm. Philippe Danault fait partie de ces joueurs-là. Bon, mais en plus, il remplit la petite coche spéciale qui s'appelle francophone.
Dans des cases. Marc Bergevin voulait remplir des cases cette semaine. Danny,
ouais, mais dans une équipe qui a de la difficulté à trouver son pôle Nord, ouais, et à comprendre comment marketer dans un univers francophone. Et les gars, la définition du mot marketing, là, c'est marketing, comme jogging, comme boxing, comme running.
C'est une action. Bon.
Ben non, mais c'est certain. Alors, il y a fondamentalement le lien crucial avec ton marché. Et si on prend les Canadiens dans ce marché-ci, forcément, tu dois avoir des tentacules locales. Mmh. Exprime-le de la façon dont tu veux, là. Mais Philippe Danault fait partie de ça, une tentacule locale.
Donc, ça a une valeur pour l'équipe également.
Ben oui, pas juste pour le joueur. Ben non, mais c'est sûr. Une valeur pour les fans, une valeur pour l'équipe, une valeur pour les médias, une valeur pour toutes les parties prenantes de trouver une façon de régler et d'avoir un Philippe Danault heureux et prospère ici à Montréal. Peu importe les problèmes du plafond salarial qu'ils ont.
Et on a tendance à l'oublier parfois en guise de conclusion. Ray et Danny, il y a quand même 80% du marché des clients du Canadien qui sont des francophones.
Oui, c'est sûr. Non, mais c'est, comme je l'ai dit, c'est pas les
Canadiens. On l'oublie parfois.
C'est pas les Canadiens de Saskatoon, là. C'est les Canadiens de Montréal. Alors, pour eux autres, c'est important là, qu'ils perdent jamais de vue que les acheteurs là qui investissent quotidiennement leur argent, leur émotion, ce sont des Québécois. Alors, c'est certain que ça vient avec le marché, puis peut-être que des fois, ça joue contre toi, puis peut-être que ça devient un obstacle, mais tu peux pas l'oublier, là. Ça fait 110 ans que les Canadiens sont populaires ici, perds pas ça de vue.
Ray Lalonde, ça a été très intéressant. Merci de ta généreuse contribution à notre émission, puis j'invite les gens à te suivre chaque matin aux alentours de 8h10 du lundi au vendredi pour les gens du 98.5 à Montréal avec Paul Arcan et avec les amateurs de sport en compagnie de Mario Langlois. Merci, Ray.
Merci, messieurs. Bonne journée.
Merci beaucoup.
On s'arrête pour une pause et au retour, on va parler des impacts sportifs de cette fameuse division canadienne. Comment le Canadien pourrait se défendre ou se comparer, avantages et désavantages, avec ses rivaux canadiens en compagnie de Danny. Restez là pour la suite.
Vous écoutez Prolongation avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour pour le dernier droit de l'émission Prolongation en ce samedi, Danny, début de soirée. Et là, bien évidemment, il y a eu quelques signatures. Là, il y a eu celle de Pietrangelo qui a choisi les Golden Knights. Semble-t-il que l'opération séduction, le petit voyage à Vegas, a porté ses fruits. Mais bien au-delà de ça, Pietrangelo à Vegas avec l'équipe des Golden Knights et vraiment dans un environnement où là, il n'y a pas de doute, là, il y a une autre Coupe Stanley qui est potentiellement à sa portée, là.
Ah ben c'est clair que c'était une pièce manquante. C'est une bonne équipe là, mais manquait cette pièce là. Et c'est un joueur dominant que tout le monde convoitait. Pas tout le monde pouvait. Tout le monde en rêvait. Pas tout le monde qui le convoitait. Disons ça comme ça. C'est tout le monde qui en rêvait, Martin, parce que Pietrangelo c'est un joueur vraiment spécial. Et tu sais quoi, je veux juste rappeler aux gens quelque chose d'assez important. C'est que lui, Pietrangelo là, c'est l'année de Drew Doughty. Oui. C'était une année faste en défenseur là.
Vraie grosse cuvée.
Une grosse cuvée. Et c'est le dernier à avoir atteint la Ligue nationale. Ouais. Il a terminé son junior. Là, les gens disaient « Ah, peut-être que Saint-Louis s'est trompé. Ils n'ont peut-être pas pris le bon. » Et finalement, là, au bout de tout ce processus, c'est devenu un joueur dominant dans la Ligue nationale. Et c'est lui qui, en fin de carrière, dans la deuxième portion de sa carrière, après avoir gagné la Coupe Stanley, c'est le joueur qui est encore le plus performant. Meilleur que Drew Doughty, plus équilibré dans sa performance, attaque-défense, plus intelligent, je trouve, l'espèce de ce que tu cherches à avoir quand on parle du total package, du gars qui a tout, là, le joueur le plus complet, c'est lui.
Et bien évidemment, Danny, il va sans dire que dans l'environnement de Vegas, il sera bien appuyé autour à la défense. Chez Theodore, il y en a quelques bons là-bas autour de lui. On a quand même sacrifié Martinez. On a quand même sacrifié Schmid. Mais Schmid, c'est un joueur bien engagé. On l'aimait bien là-bas. Sauf que évidemment, Pietrangelo va amener infiniment plus que Schmid à la ligne bleue. Il y a un autre dossier parce que je voulais qu'on parle de la place du Canadien de Montréal dans une division canadienne. Puisqu'on a pris l'avion pour aller à Vegas, on va y rester encore quelques minutes. Okay. Cette semaine, Marc-André Fleury était l'invité de Jérémy Rainville à Bonsoir les Sportifs, la connexion de Sorel, pardon. Alors, il a été question de son avenir, bien sûr. Là, c'est sûr que le directeur général McCrimmon a été assez clair. Marc-André Fleury devrait rester à Vegas. J'ai encore de très gros doutes par rapport à ça. Et il y a un des éléments qui a été abordé avec Marc-André Fleury, et pour moi, c'est le nœud du problème. Ça a commencé lorsque Peter DeBoer est arrivé derrière le banc de l'équipe lorsqu'il a relevé Gérard Gallant. Visiblement, DeBoer a commencé à penser différemment l'utilisation de Marc-André Fleury. Et ce qui dérange en même temps, Danny, parce qu'on en avait parlé pendant les séries ensemble durant nos chroniques, c'est qu'on n'a pas laissé la chance à Fleury de regagner sa job, garder sa job ou même perdre sa job, étant donné ce qu'il avait déjà donné à cette organisation-là. Avant de t'entendre, on va écouter Marc-André Fleury qui parle quand même avec un peu d'amertume sur ce point-là concernant Peter DeBoer et ses décisions.
C'est correct. Je sais pas, je fais partie d'une équipe, puis mon but c'est jamais d'avoir de chicaner avec personne, tu sais, puis c'est un gars d'expérience, c'est un couple d'années qui est dans les aussi, puis on a eu la chance de discuter aussi une couple de fois, fait, tu sais, j'ai pas de problème avec Pete.
OK. Est-ce que tu aurais apprécié qu'il te fasse peut-être un petit peu plus confiance dans la série?
Ben c'est sûr, écoute, j'adore jouer. J'aime encore ça beaucoup. Quand t'es sur le banc, des fois ça te manque l'adrénaline, l'action, d'être sur la glace avec tes joueurs. T'sais, le feeling de gagner les matchs, c'est vraiment quelque chose que tu peux juste avoir en jouant. T'sais. Que vraiment, c'est le fun, ça fait du bien. En même temps, écoute, c'est sa décision, puis c'est le boss. Pour que je fasse qu'est-ce qu'il me demande de faire.
Le passé, Danny, nous donne des références intéressantes et tous les deux, on a partagé l'incroyable expérience professionnelle des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Et lors de ces Jeux-là, il y a eu la passation des pouvoirs entre le grand Martin Brodeur et Roberto Luongo. Et moi, j'ai toujours salué l'intelligence de Mike Babcock cette fois-là, où, criblé par les questions de 300 journalistes concernant le dossier des gardiens de but, il a gardé son calme et surtout, il a réussi à faire la passation de Brodeur à Luongo sans manqué de respect à Martin Brodeur parce qu'on avait laissé, dans, en quelque sorte, à Brodeur la chance de défendre son filet, ce qu'il n'avait pu faire en raison du fait qu'il était avancé dans sa carrière. Et là, le plus jeune est arrivé et a pris la place. Sauf qu'à Vegas, ça s'est pas passé de même.
On lui a enlevé. On lui a pas... Si on te laisse la chance de perdre ta place, t'assois au bout du banc, tu te dis « je l'ai perdu, j'avais eu une chance, je l'ai perdu ». Donc ça, c'est la première chose. Et, et souvent, ce qui va faire qu'il y a de l'amertume, dans n'importe quoi, là, c'est que ce soit pour un gardien, un joueur, ou dans toute autre situation où tu as à vivre une situation qui n'est pas dans tes mains, là, qui t'as pas le contrôle de cette situation-là, et tu es impuissant devant ce qui t'arrive. C'est exactement ce qui se produit avec Marc-André Fleury. Et c'est sûr qu'il brase l'amertume. Ouais. On le sent dans sa voix. C'est un gars, et il a raison, c'est pas bon de chicaner. Il veut pas chicaner, c'est pas dans son tempérament.
Non, ça a jamais été sa réputation
non,
aussi. Là.
Non, et c'est pour ça qu'il est tellement apprécié de ses coéquipiers. Donc ben, là, absolument. lui, ce qu'il fait, c'est qu'il la joue tranquille, mais dans son fort intérieur, il se dit, bon, l'entraîneur m'a placé sur la voie de service ou m'a empêché de faire mon travail. Il m'a enlevé le filet, l'a donné à l'autre, puis c'est comme ça, tu sais. J'ai pas eu la chance de perdre ma job. Et ça, c'est un privilège que tu gagnes avec les années, d'avoir toujours le premier regard, le premier droit de regard. C'est un
peu comme il l'avait gagné, ce privilège-là.
Absolument. Tout à l'heure, Ray Lalonde nous disait, bon, on parlait de droit, les premiers droits de regard. Celui qui a le contrat, il a le premier droit de regard. Il peut le rejeter ou le garder. Bon, au moins, c'est un contrôle que tu as parce que il y a un partenariat qui est établi. Et visiblement, ce partenariat, De Boer, qui était un nouvel entraîneur, lui, il partageait pas.
Et puis, le directeur général, Kelly McCrimmon, a pas non plus aidé la situation. C'est parce sûr. Que George McPhee avait été chercher Marc-André, il avait bâti sa franchise au repêchage d'expansion en présentant le premier joueur de l'histoire de cette franchise-là, Marc-André Fleury. McCrimmon arrive, prend un rôle plus important au niveau des opérations de hockey, McPhee étant relégué, façon de parler, là, au rôle de président, c'est-à-dire à la haute direction de l'équipe. Alors, McCrimmon, lui, va chercher Leonard. Et en plus de ça, dans le prochain extrait de la converse entre Jérémy Rainville et Marc-André Fleury, c'est que, à Pittsburgh, Jim Rutherford, qui venait d'arriver comme directeur général dans le processus, là, a reconnu les années de service puis les succès que Marc-André a eu. Il l'a respecté, il l'a tenu au courant de la suite des événements. Il lui a parlé, ce que visiblement McCrimmon n'a pas fait. On écoute Marc-André Fleury là-dessus.
C'est vraiment ouvert à qu'est-ce qui se passait, puis peut-être à ses options un peu, puis m'aider un peu à me faire une idée, puis de m'aider peut-être même à pouvoir choisir un peu où je voulais aller. Mm. Ben, dans le sens, il m'échangeait aussi, puis à Vegas, ils ne m'ont pas échangé, donc c'est pour ça aussi que je comprends qu'ils sont pas assez bons pour aujourd'hui de leur place.
Ça va être à suivre. Il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts et dans certaines régions de la Ligue nationale, Danny, l'eau va même geler sous les ponts bientôt. Alors, ce sera intéressant de voir si le 1er janvier ou le 1er février, date où la Ligue nationale recommencera. Ce sera intéressant de savoir si Marc-André sera toujours un Golden Knights à ce moment-là. J'ai promis aux auditeurs, Danny, que on travaillerait un petit peu, on essaierait d'évaluer le Canadien à l'intérieur d'une division toute canadienne. Je vous rappelle là, qu'on doit établir des comparaisons entre Edmonton, Toronto, Vancouver, Calgary, Winnipeg et Ottawa. Quand on faisait des comparaisons sur les chances de faire les séries dans la division Atlantique, on disait Tampa Bay champion de la Coupe Stanley, Boston devrait se maintenir, peut-être une amélioration des Panthers de la Floride, où seront les Maple Leafs de Toronto, les Sénateurs d'Ottawa, on sait, on connaît les données, Buffalo maintenant avec Taylor Hall. Là, on doit faire le même exercice avec, Danny, les clubs canadiens. Oui. Ça commence peut-être par Edmonton et Toronto, qui sur papier sont possiblement les deux équipes les mieux nanties de cette division de cette équipe canadienne. Est-ce que le Canadien peut rivaliser avec ces deux équipes-là?
Ils sont derrière Toronto, ça c'est sûr. Ils vont donner du fil à retordre à Toronto, aux Canadiens, parce que ils ont une équipe je pense qu'il est mieux bâti à la défense.
Oui,
j'aime
ça,
pas beaucoup la défensive de Toronto. J'aime pas non plus leur situation devant le filet. Je la trouve correct sans plus. Dans le cas d'Edmonton, ben écoute, c'est à la défense, à la ligne bleue, troisième centre Calteris qui a de la difficulté. Je vois pas cette équipe-là actuellement prendre du galon, même s'ils ont des super vedettes en attaque. Ils sont trop vulnérables dans la portion arrière de leur alignement.
Et la seule chose, c'est qu'on va dire les choses comme elles le sont. Quand le Canadien va jouer à Edmonton, c'est comme s'ils attrapaient un virus. Par contre, là, il y a cet élément-là où le Canadien en arrache naturellement et depuis plusieurs années face aux Oilers. Et ça inclut Carey Price. Ouais. Heureusement que Jake Allen est autour. Danny, il y a quand même un groupe d'équipes intéressant avec lequel on peut comparer le Canadien. Winnipeg, Vancouver et Calgary. Là, c'est plus difficile de départager le Canadien, avantages et inconvénients, contre les trois équipes canadiennes que j'ai mentionnées.
Bon, Winnipeg, j'ai un petit peu de difficulté avec leur brigade défensive. DiMelo, Sbisha, Forbort, c'est pas des joueurs Brossoit comme gardien de but de réserve. Mm-hmm. C'est derrière, on est un petit peu dans le même scénario que on est un petit peu dans le même univers que Toronto. C'est très bien nanti en attaque, plus difficile en arrière. Vancouver, écoute, des acquisitions importantes leurs deux gardiens de but.
L'équilibre est intéressant. Là.
Oui, absolument. Leurs deux gardiens de but, Demko comme de gardien de but de réserve, Oldby évidemment.
Oldby joue bien contre le Canadien habituellement.
C'est un bon gardien, je joue bien contre le Canadien. Schmid, c'est une acquisition correcte à la ligne bleue. Ils ont perdu Tanev, ce qui est quand même un gros morceau là. Mais eux, Vancouver, j'aime bien ce qu'ils représentent. Calgary, j'adore leur équipe. Je trouve qu'ils ont
avec Markstrom surtout là.
Bel équilibre et là Markstrom devant le filet, Tanev à la ligne bleue. Eux là, ils sont vraiment dans une position intéressante. Ottawa, c'est une boîte à surprise. Ottawa.
Ils vont jouer les empêcheurs de tourner en rond. Eux, ils vont causer du trouble certains soirs. C'est convaincant.
C'est sûr. On verra bien ce que Matt Murray va réussir à offrir comme performance. C'est pour moi, c'est un gardien qui peut pas jouer trop souvent. Mm-hmm. Un peu comme Anderson à l'époque là. C'est la fragilité sur le plan physique, mais c'est un bon gardien. Il va définitivement amener de la stabilité. Dadonov, évidemment, sans l'ombre d'un doute, va leur donner un petit peu d'attaque. Mais c'est une équipe jeune en devenir, donc eux aussi derrière le Canadien. Alors là, maintenant, ce qu'il nous reste à définir, Martin, et on ne le sait pas encore, c'est ça va être quoi le format?
Combien la fréquence des participer? Rendez-vous, c'est
oui,
ça.
Oui, puis combien d'équipes vont participer aux séries? Puis tu sais, on sait rien de ça. Donc,
Pour moi, ça va être 24 équipes encore, Danny. Ouais. Surtout, tu sais, je veux dire, on va être dans sauver chèvre et chou, là. C'est-à-dire que on va être dans faire le meilleur avec ce qu'on a et on pourrait avoir encore 24 équipes. Honnêtement, Danny, là, moi, j'ai placé le Canadien quatrième dans la division canadienne. Malgré tout, derrière Edmonton, derrière Toronto et derrière Vancouver. Puis quand je dis derrière Vancouver, je dis pas 10 points en arrière de Vancouver. Là. Moi, je pense que Montréal et Vancouver peuvent s'échanger drôlement la troisième position pour une bonne partie de la saison. Mm-hmm. Et j'ai placé le Canadien devant Calgary pour les nouvelles acquisitions parce que là, le Canadien va être bien bâti physiquement sur à peu près tous ses trios et ses paires de défense pour aller jouer contre ces équipes-là. Là.
Ouais, le Canadien a de la profondeur. Ils n'ont pas de joueurs dominants comme les équipes que tu mentionnes. Toronto, Calgary, pour moi, et Vancouver, qui ont vraiment des joueurs offensifs dominants. Donc, pour moi, je les place aussi dans cette zone-là, quatrième. Mais Vancouver, je les vois devant eux, Calgary devant eux et Toronto devant eux à ce point-ci là, dans les équipes canadiennes.
En tout cas, il y a une chose qui est certaine, puis on en a glissé mot avec Ray tantôt, là, pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute, puis je reviens brièvement là-dessus. Moi, Danny, je suis peut-être un idéaliste, là, mais je vois toujours le verre un petit peu à moitié plein, là. Mais honnêtement, j'adorais cette formule-là, puis j'ai l'impression que le niveau d'émotivité des partisans va venir égaler l'intensité des matchs si on fait une division canadienne.
Ben, c'est sûr que la rivalité va être au sommet de tout ça. Il va y avoir de la passion dans le jeu. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'on en a parlé en dehors des zones ensemble, tu sais, ce sera quoi la formule, combien de matchs, façon dont ça va se dérouler. Il y a encore beaucoup d'incertitudes et beaucoup de questions sans réponse. Mais moi, j'aime l'idée. J'aime l'idée de la formule Made in Canada. Là. J'aime bien ça.
on a quelques secondes avant de passer à la pause et à la fusillade au retour des messages. Mais on va surveiller Danny chez le Canadien plus particulièrement. Et ce qui sera intéressant de voir si ce qu'on a à faire pour descendre un peu en bas du plafond salarial de 81,5 et se donner une marge de manœuvre sera fait et comment ce sera fait. Est-ce qu'on trouvera le moyen de sacrifier un plus gros salarié. Par exemple, Paul Byron, qui a pas de clause non-échange assortie à son contrat. Ou si on se tournera vers des joueurs de soutien, Jordan Will, Arturi Lehkonen, qui ont de plus petits salaires, mais qui pourraient quand même permettre aux Canadiens d'avoir 1,5 million à peu près de marge de manœuvre sous le plafond salarial. On va surveiller ça certainement.
Oui, puis on aura l'occasion d'en reparler en long et en large, Martin, parce que c'est certainement un dossier qui va continuer de faire couler de l'encre parce qu'on n'est pas à ce point-ci. Là. Je pense que toutes les options sont sur la table. La première, c'est de signer Philippe Danault, mais ensuite, oui, c'est d'organiser tout ça parce qu'il va avoir vraiment un petit peu de gymnastique à faire pour remplir toutes les cases.
La prolongation est presque terminée. Au retour des messages, nous irons en tir de barrage. Restez là. On est en fusillade. Ah, c'est ainsi que nous concluons chaque émission prolongation avec les tirs de barrage. Alors, Danny Dubé est devant le filet. Il a resserré ses vieilles jambières de cuir et il a replacé son masque protecteur. Il est prêt à affronter les 7 prochains tirs. Philippe Danault doit-il se préparer, Danny, mentalement à jouer sa dernière année de contrat vu le contexte actuel et les propos récents de Bergevin?
Non, je pense qu'on est dans un jeu de négociation. On va trouver un terrain d'entente.
Intéressant. Parmi les nouvelles acquisitions du Canadien, que ce soit Johnson, que ce soit Edmundson à la défense, Allen devant le filet ou encore Toffoli, lequel de ces joueurs-là va s'être avéré, selon toi, après la saison 2021, c'est-à-dire après la prochaine saison, lequel aura été le meilleur boni pour le Canadien? Je parle pas du meilleur joueur, mais le meilleur boni pour la position qu'il occupe.
Jake Allen, au prix il a coûté aux Canadiens de Montréal, va être celui qui va fournir le plus de points aux Canadiens de Montréal. Des points qui vont permettre aux Canadiens de demeurer dans la course aux séries et éventuellement de se tailler une place dans une division qui va être très compétitive, on le sait, en raison des circonstances.
Allons ailleurs maintenant. Marc-André Fleury, à la lumière de ce que tu as entendu, autant de lui que de la direction de l'équipe, est-ce que maintenant, il doit placer les Golden Knights dans une situation où ils doivent l'échanger? Est-ce qu'il doit demander une transaction implicitement?
Je pense que oui. Je pense que pour le bien de l'équipe et le bien de Marc-André, personnellement, il doit forcer l'équipe à trouver une situation. Ceci étant, je pense que ce que Marc-André fait mérite, c'est d'avoir une place où il peut jouer dans un contexte où justement il aura une chance de réussir. Et ça veut dire peut-être une direction en direction d'Edmonton, peut-être un endroit comme ça où vraiment là,
Chicago,
où il y a vraiment un vide, un trou devant le filet. Et ça, ben il y a quelques organisations comme ça. Malheureusement, je pense que ce ne sont pas toutes des organisations qui ont une chance d'aller loin. Ouais. Et certaines d'entre elles ont déjà comblé leur besoin.
Avec deux numéros 2, là.
Ouais. Oui, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'Edmonton serait extrêmement intéressé. Et ça amènerait une dimension très importante du côté des Oilers d'Edmonton.
Alors là, tu l'amènes dans la division canadienne. On va y aller dans la fameuse division canadienne. Si le plan se met en œuvre et qu'il devient concret, selon toi, Danny, quelle formation parmi les 7 équipes canadiennes va profiter le mieux de la situation pour améliorer son sort, améliorer ses performances en jouant à l'intérieur même des frontières canadiennes?
Écoute, je pense que le Canadien va bénéficier de ça. Le Canadien, c'est une équipe qui a toujours, malgré les circonstances, a toujours été très compétitive. Mm-hmm. Même si dès le voyage dans l'Ouest, ça n'a pas toujours été une histoire de succès. Dans un calendrier qui est changé, modifié, j'ai l'impression que le Canadien pourrait tirer son épingle du jeu dans une division canadienne.
Moi, je pense, Danny, que les Oilers d'Edmonton vont aplanir bien de leurs défauts en jouant contre les équipes canadiennes.
Ah oui.
C'est mon petit retour de lancer sur la fusillade.
Ben, t'as pas le droit de récupérer un retour de lancer, c'est une fusillade, mais je vais quand même sortir la jambière au tout dernier moment en te disant que les équipes canadiennes, en tout cas dans la division du Canadien, mais que les équipes canadiennes en général qui réussissent sont celles qui jouent très bien défensivement. Et c'est pas le cas des Oilers.
OK. On a abordé le sujet il y a pas très longtemps, il y a quelques minutes. Est-ce que les Golden Knights de Vegas se sont rapprochés davantage de la Coupe Stanley avec Pietrangelo dans leur formation?
Ah oui. Parce que je pense que chez Theodore, il ne pouvait pas prendre ce type de responsabilité. Il ne pouvait pas prendre le nombre de minutes que Pietrangelo va prendre, la qualité des minutes que Pietrangelo va prendre en étant utilisé tant en avantage qu'en désavantage numérique, en plus de ses présences à 5 contre 5. Alors Pietrangelo va amener au Golden Knights ce que Shea Weber a amené aux Canadiens à son arrivée avec l'équipe.
C'est intéressant, j'aime bien la comparaison. J'ai hâte de voir si ça va se piler ses pieds dans ce vestiaire-là, ça va être à suivre. L'Avalanche du Colorado n'a pas fait de geste significatif à l'ouverture du marché le 9 octobre dernier. Est-ce qu'ils vont payer le prix cher de ne pas avoir fait de mouvement personnel?
Je pense que oui. Il y a certaines décisions qu'ils auraient pu prendre, qu'ils n'ont pas daigné prendre. Je pense que de grossir leur équipe à la défense, pour moi, ça semblait un élément essentiel qu'ils n'ont pas fait. L'arrivée d'Eric Johnson, de le placer là, je pense que c'est pas suffisant. C'est pas un joueur c'est un joueur en fin de parcours, etc. Probablement qu'il y a une connotation financière qui est reliée à toutes ces décisions-là. Et pour moi, c'est peut-être l'élément qui me dérange le plus parce qu'ils ont vraiment beaucoup à offrir en attaque.
Alors, mon dernier tir, Danny, j'aime bien revenir dans l'actualité chez le Canadien de Montréal. On va aborder ça de façon plus précise la semaine prochaine, puis on verra bien ce qui se déroulera au cours des 7 prochains jours. Mais, selon toi, qui est le joueur qui doit partir pour permettre aux Canadiens de bien respirer sous le plafond salarial?
En fait, si on veut avoir une chance de succès chez le Canadien de Montréal, il faut pas trop toucher aux 9 premiers attaquants. Donc, ça veut dire que Lekkonen, pour moi, est le joueur qui doit partir parce que Byron, avec son contrat, qui est plus lourd à 3 millions et qui reste encore 2 autres années après cette année qui va s'amorcer, ça demeure un peu problématique de faire une transaction de la sorte. Donc, Lekkonen et Mété, pour moi, seraient deux joueurs qui pourraient quitter assez rapidement l'organisation, permettant à Bergevin d'avoir la marge pour travailler.
Et il faut quand même pas oublier que le 1,4 million de Jordan Will peut se retrouver à Laval. Alors, ça aussi, c'est un autre dossier à surveiller. Danny, merci infiniment.
Ben, c'est un plaisir.
Je pense que tu as bien fait ça encore en fusillade cette semaine. Ça te donnera une bonne semaine pour te préparer pour la prochaine fusillade.
De la glace, parce que oui. Ça me fait mal. Là. C'est...
le bal à laine, hein?
Oui, c'est ça.
Alors, mesdames, messieurs, pendant que Danny va subir des traitements pour faire face à la prochaine fusillade, on va se préparer, bien sûr, pour vous souhaiter une excellente semaine de sport. Je vous invite à suivre Mario Langlois en direct toute la semaine au réseau Cogeco en soirée et Jérémy Rainville à Bonsoir les sportifs pour l'actualité sportive et tout au long de nos émissions partout au réseau. On tente de vous tenir informés de minute en minute, de jour en jour, sur ce qui arrive dans notre belle planète hockey. Merci à Geoffroy Morin qui a travaillé à la réalisation de cette émission. Mon nom est Martin McGuire. Au nom de Danny Dubé, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Soyez là samedi prochain, 16h, pour une autre période de prolongation.